Radio Grand Ciel présente Histoire d'en savoir plus, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Jean-François Roland. Au micro, Christiane Blain. Aujourd'hui, je reçois le commandant Laurent Danis. C'est au cours de la cérémonie de la Sainte-Geneviève que j'ai connu le commandant Laurent Danis. J'ai beaucoup aimé son discours et j'ai pu me rendre compte combien la camaraderie, la solidarité, l'esprit de corps régnaient dans cette institution. Le commandant Laurent Danis a été installé officiellement le 1er août 2018 à Nogent-le-Rotrou. Il dirige la compagnie de gendarmerie qui compte 62 personnes. Commandant Laurent Danis, bonjour.
Bonjour Christiane Blain.
Alors vous êtes à Nogent depuis 6 mois. Quelles sont vos impressions à propos du Perche et aussi à propos de Nogent-le-Rotrou ?
En provenance de Prades, située dans les Pyrénées-Orientales, je ne connaissais pas cette région du Perche. C'est un secteur géographique vallonné, touristique, où il fait bon vivre. Nogent-le-Rotrou est une ville agréable, avec une population donc accueillante. Alors Nogent est bien situé aussi, non loin de la capitale, Paris, mais aussi proche de belles agglomérations qu'on a été aussi amené à visiter avec ma petite famille à Chartres, Le Mans, Angers, pas très loin.
Oui, alors vous disiez votre petite famille, à savoir ?
Alors je suis marié à une berrichonne et je suis père d'une jeune fille de 16 ans.
Très bien. Elle va au lycée à Nogent-le-Rotrou ?
Alors, elle va au lycée, effectivement, à Nogent-le-Rotrou, précisément à Rémy Bello.
Alors, justement, j'imagine que la gendarmerie, c'est presque une vocation. Et vous semblez d'ailleurs très heureux de votre engagement. Alors, expliquez-nous comment vous est venue cette idée de la gendarmerie et comment vous y êtes arrivé ?
Ben, si vous voulez, depuis très jeune, hein, je voulais
très
faire
jeune,
le métier.
Très jeune,
c'est-à-dire ? Oh, j'avais peut-être, je devais avoir 10 ans, une dizaine d'années, hein, très, très simplement. Je voulais faire une fonction policée, je dis bien policée, ne sachant pas la différence entre un policier et un gendarme à l'époque. Et puis, voilà, j'ai fait un petit cursus scolaire, j'étais jusqu'au baccalauréat, et sitôt l'obtention de mon baccalauréat, donc j'ai pris cette décision de vouloir entrer ou dans la police ou dans la gendarmerie. À l'époque, il y avait encore le service national militaire. Oui. Et donc, j'ai eu cette chance de pouvoir le faire en gendarmerie. Dès lors que j'ai mis un pied au sein de l'institution, je ne l'ai pas quitté.
Et vos parents, votre père était dans cette fonction ?
Absolument pas. Je suis fils d'un commerçant, d'un épicier. Et voilà, mes parents étaient commerçants. Ils tenaient une petite épicerie de quartier dans une petite ville de province.
Donc, ils ont été contents de vous voir ?
Pleinement. Au début, j'étais un petit peu surpris parce que on me voyait peut-être sur une autre destinée et j'ai toujours suivi cette idée de, comme je le disais précédemment, de faire cette fonction policée et donc voilà, je suis resté tenace quoi.
Donc vous aviez passé votre baccalauréat, vous décidez d'être, il faut passer un concours pour la gendarmerie.
Précisément, si vous voulez,
parce que c'est peut-être, je trouve que vous êtes un bon exemple et si nos jeunes qui nous écoutent ont envie aussi d'embrasser cette
non,
carrière.
Si vous voulez, je suis rentré avec minimum le baccalauréat. À l'époque, le baccalauréat n'était pas obligatoire pour rentrer en gendarmerie.
Ah, oui.
Maintenant, il l'est. Hein, pour embrasser une carrière à minima de sous-officier de gendarmerie, il est nécessaire d'avoir le baccalauréat. Il y a une autre possibilité, c'est de pouvoir rentrer, comme on dit un petit peu dans le jargon, par la petite porte, en étant gendarme adjoint volontaire, en faisant un contrat donc, de 2 ans renouvelable, 3 ans plus une année, 6 ans maximum. Et au bout d'une année, donc, quelqu'un qui n'est pas titulaire du baccalauréat, étant gendarme adjoint volontaire, peut passer le concours par la voie dite interne.
Oui.
En revanche, par la voie externe, donc, aujourd'hui, il est absolument nécessaire d'avoir donc, le baccalauréat. Et pour ce qui me concerne, donc, à l'époque, moi, c'était sous le sceau du service national militaire. Donc, je suis rentré en tant que gendarme auxiliaire. Donc, j'ai fait un petit peu plus de 12 mois de service militaire, 14 mois pour être précis. Et donc, j'ai passé le concours et donc j'ai intégré ensuite l'école de sous-officiers de Châtellerault.
Alors, donc, vous êtes dans cette école, ça dure combien de temps et quelles sont les études ?
Alors, à l'époque, si vous voulez, c'est une formation de 12 mois. Vous avez des formations logistiques, militaires, juridiques. Voilà, vous voyez, vous découvrez le métier de gendarme. Un métier, donc, qui est... le statut de gendarme est aussi un statut militaire.
Oui.
Donc, il y a cette appartenance militaire hein, qui est aussi notre ADN. Hein,
bien
puisque
sûr.
Même si depuis 2003, Nous sommes détachés à part entière et pour emploi au sein du ministère de l'Intérieur.
Oui, ça c'est important de le dire.
Voilà, notre statut militaire prévaut. Et donc, il y a toute cette phase militaire qui est indispensable à la formation du gendarme lorsque vous épousez une carrière future de sous-officier.
Oui, donc vous avez à peu près la même, c'est à peu près les mêmes études qu'un militaire qui arriverait au grade de lieutenant.
Oui, enfin, c'est-à-dire il faut faire bien la distinction, si vous voulez, sous-officier ou officier, puisque
oui,
pour
ça,
être
ouais.
officier de gendarmerie, donc dès lors que vous rentrez par la voie dite externe, il y a un certain nombre d'études au-delà du baccalauréat. En revanche, il y a aussi la possibilité d'être officier de gendarmerie. Maintenant, quelqu'un donc sous-officier peut aussi, j'en demeure un exemple, si vous voulez, de passer par la voie du rang.
Oui, très bien.
Donc, ce qu'on peut appeler communément par l'ancienneté, si vous voulez, au-delà d'avoir franchi tous vos grades en qualité de sous-officier, vous passez le cap officier à un moment donné, donc par la voie dite du rang.
C'est ça. Alors, vous êtes officier depuis combien de temps ?
Alors, moi, je suis officier de gendarmerie depuis 2006, précisément.
2006. Alors, bien sûr, vous avez dû voyager beaucoup, vous avez dû avoir diverses affectations. Est-ce que le fait de changer, de voyager, vous avez trouvé que c'était bénéfique, à chaque fois, vous en sortiez plus fort ?
Alors, ben, si vous voulez, on s'en sort inévitablement beaucoup plus fort. Alors, sans langue de bois, j'aurais tendance à dire, si vous voulez, que la mobilité, puisque, comme je l'expliquais précédemment, le statut militaire véhicule un certain nombre de valeurs dont nous sommes fiers et dont nous sommes fortement attachés. Parmi ces valeurs, il y a aussi cette mobilité géographique. Et si vous voulez, comme je disais précédemment, donc sans langue de bois, elle est aussi parfois pesante et pénalisante pour la famille, parce qu'à chaque fois, il faut se reconstruire sur une nouvelle ère géographique. En revanche, elle est aussi source d'enrichissement, puisque dans les différentes, dans les différentes affectations, peut être amené à connaître un certain nombre de vécus, d'expériences, et c'est ce qui se constitue un petit peu cet enrichissement au quotidien.
Oui.
Donc, on subit, on apprend des choses au fil de l'eau. Et puis après, on transporte un petit peu notre savoir et on le fait partager à l'occasion de d'autres affectations.
Et votre épouse travaille ?
Oui, elle travaille.
Bon, quand vous dites la famille, je pense que c'est ça, quelquefois.
Il y a ce côté famille, ça peut paraître un petit peu élémentaire, mais la famille est obligée de se reconstruire à part entière, retrouver un médecin, retrouver un coiffeur, découvrir une nouvelle vie.
Mais c'est surtout le travail pour la femme.
Et puis le travail et aussi
l'école,
pour les enfants, également se refaire tout un réseau de connaissances,
mais
d'amis,
oui, bien
etc.
Sûr.
Ouais. Même si les amis restent dans les différentes...
Oui. Alors, quand vous êtes arrivé à Nogent-le-Rotrou, quelle a été votre impression ? D'abord, vous êtes logé. Est-ce que tout cela est important ? Quelle a été votre réaction, et peut-être celle de votre épouse aussi, quand vous êtes arrivé à Nogent-le-Rotrou ? C'était pour vous une promotion, Nogent-le-Rotrou ?
Oui, c'était une promotion, puisque j'ai eu cette chance, après avoir occupé des fonctions d'adjoint et de commandant en second dans différentes compagnies.
Oui.
Donc, j'ai eu cette chance de prendre le commandement d'une compagnie à taille humaine, à Nogent-le-Rotrou. Donc, ça a été une opportunité pour moi. C'est un petit peu la cerise sur le gâteau
bien sûr.
De la carrière. J'ai été très bien accueilli. Il y a une ambiance qui est saine, une ambiance de travail. Et voilà, que ce soit à l'extérieur de la compagnie, mais aussi en interne, dans l'interne de gendarmerie, on a été très très bien accueilli. Oui.
Oui. Donc vous avez 62 hommes sous
62
votre...
hommes et femmes confondus, oui.
Oui. Et justement, votre épouse, elle aussi, a trouvé ses marques, si je puis dire, en arrivant. La maison lui plaisait, c'est ça
Oui, alors si vous voulez, quand vous êtes gendarme, vous avez ce qu'on appelle, alors on peut rappeler ça communément un logement de fonction, c'est ce qu'on appelle précisément une concession de logement par nécessité absolue du service. En clair, la contrepartie de l'attribution de ce logement, c'est la disponibilité du gendarme. Donc effectivement, dès lors que vous rentrez en gendarmerie, vous avez ce logement de fonction, oui.
Alors, bien sûr, vous n'êtes pas toujours de service, j'imagine.
Oui.
Alors, comment ça se passe ? Parce que vous êtes 62, c'est ça ?
Oui.
Donc, j'imagine qu'il y a des gens qui peuvent vous remplacer quand vous avez vos dimanches ou...
Fort heureusement, il y a un roulement, si voilà. vous voulez. Autrement dit, bon, ben, vous avez des... on est amené à prendre ce qu'on appelle le rythme des permanences opérationnelles pour 24 heures. Hein. Donc, vous avez effectivement des gens qui sont au travail. Et puis après, vous avez un système de, ou de quartier libre le soir ou de repos hebdomadaire, hein, les 48 heures de repos hebdomadaire. Mmh. Et puis, vous avez un certain nombre de congés. Alors, les congés, ça s'appelle des permissions, langage militaire.
Oui, c'est voilà, ça, exactement. Donc, vous arrivez avec... Alors, vous êtes des combien de personnes qui sont prêtes à vous remplacer?
Alors,
quand il y a des congés, j'entends.
Non, me concernant, si vous voulez, bon, moi, je suis le commandant de compagnie. Il y a qu'un commandant de compagnie à la tête d'une compagnie et un commandant en second. Hein, donc
il y a un commandant en second.
Voilà, il n'y a qu'un officier et son second, qui est le capitaine Guézen, mon adjoint.
Voilà. Donc, quand vous n'êtes pas...
C'est une semaine sur deux.
Voilà, c'est ça.
Voilà, c'est une semaine sur deux au rythme des...
Et pour les congés, de la même façon.
Et de la même façon, voilà, on se répartit, voilà. Il faut bien s'entendre, mais c'est le cas.
Voilà. Et vous l'avez... Il était déjà là quand vous êtes arrivé?
Non. Quand je suis arrivé, j'avais un autre adjoint qui a fait valoir ses droits à la retraite au bout d'un an. Et donc, là, le capitaine Guézen est arrivé, donc, l'été dernier. Et donc...
Mais c'était pas mal, parce que vous commenciez tous les deux, quelque sorte.
En provenance de Dreux, voilà, il est venu rejoindre donc la compagnie et lire les fonctions de commandant en second.
Alors, dans votre discours, vous avez expliqué l'effet de délinquance qui était constaté dans l'arrondissement de Nogent. J'aimerais que vous nous expliquiez ce qu'il en était et ce qu'il en est aussi quant à justement la délinquance. Est-ce qu'il y a des villes qui sont plus marquées par la délinquance dans votre...
Non, si vous le permettez, j'apporterai une petite précision par rapport à mon propos que j'ai tenu à la cérémonie de la Sainte-Geneviève, en indiquant précisément que les quelques données chiffrées et aussi explicatives que j'ai apportées au cours de ce discours ne sont pas de l'exclusivité de nos gens le retrouvent.
Oui, c'est ça. Hein,
je travaille sur la compagnie, commande une compagnie qui couvre donc un certain nombre d'entités territoriales. Mm-hmm. Donc les assiettes territoriales relevant des brigades de Nogent-le-Rotrou, bien mm-hmm. évidemment, également d'Othon-du-Perche, de Thiron-Gardé et de La Loupe. Donc là, c'est 62 et 64 militaires qui sont affectés donc, dans ces quatre unités territoriales, plus des militaires qui œuvrent au sein du peloton de surveillance intervention gendarmerie ainsi que de la brigade des recherches. Donc voilà, si vous voulez, les données inhérentes à la délinquance qui peuvent être données ci et là reposent sur toute l'étendue de la compagnie. Hein,
c'est une donnée globale. C'est ça qu'il faut bien comprendre.
Hein, c'est important.
Eh bien, si vous le voulez, nous allons marquer une pause musique. Je suis toujours avec le commandant Laurent Danis. Nous avons évoqué dans une première partie sa vocation de gendarme et on a bien vu que ça lui tenait à cœur, qu'il aimait cette profession et que vraiment il était habité par la gendarmerie. J'aimerais maintenant que nous nous attardions plus sur la compagnie, en quelque sorte, sur ce qui peut exister à propos de la délinquance qu'on a pu constater dans l'arrondissement. Alors, commandant Laurent Danis, justement, comment avez-vous vu, quand vous êtes arrivé, la délinquance dans notre perche ?
Concernant le phénomène de délinquance, si vous voulez, se résume un petit peu sur deux aspects, dirons-nous, au titre de la police judiciaire,
oui.
Et également, et ô combien c'est important, la lutte contre l'insécurité routière. Donc la police judiciaire, elle se borne à deux formes d'atteinte, que les atteintes aux biens,
bien sûr.
Également les atteintes aux personnes. De plus en plus, on parle de phénomènes de violence intrafamiliale, de violence conjugale. D'ailleurs, ça a été rappelé récemment dans les Grenelles qui ont été animés au niveau des autorités supérieures, autorités administratives. Et puis, il y a bien évidemment un gros travail qui consiste à lutter, tant préventivement que répressivement, contre tout ce qui est infraction inhérente à l'insécurité routière.
Oui. Alors, on peut revenir justement aux atteintes aux biens et aux personnes. Comment ça se passe quand on vous appelle, par exemple, parce qu'il y a eu un vol et on ne sait pas quoi faire?
Alors, si vous voulez, en matière d'atteinte aux biens, l'atteinte aux biens, bien sûr, on va porter sur des phénomènes de vol, de cambriolage, de faits inhérents aux véhicules, que ce soit des dégradations, vol de voiture, vol de deux roues et ainsi de suite.
Vous avez
là,
déjà eu...
Je parle au sens général.
Voilà.
Hein, voilà. Et donc, bien évidemment, toute personne victime se doit de venir déposer plainte. À partir de là, s'ensuit une enquête avec, donc, bien évidemment, le recueil de la plainte de la personne malheureusement victime et avec des constatations. Et ensuite, s'ensuit tout un travail d'investigation en vue de découvrir le ou les auteurs des méfaits et de pouvoir ainsi les traduire devant la justice.
Voilà. Donc ça, une personne qui a été victime d'un vol, elle doit venir à la gendarmerie.
Absolument, oui.
Alors rappelons aussi où se trouve la gendarmerie. Alors, à Nogent-le-Rotrou, parce qu'elle n'est pas centrale.
Alors à Nogent-le-Rotrou, elle se trouve rue de Sully, au 53 précisément. Donc bien évidemment, c'est le siège de la compagnie, mais comme je le disais précédemment, il y a une brigade territoriale, et où il y a des militaires qui, journellement, c'est ouvert tous les jours, jusque 19h, et les personnes peuvent venir, au-delà de venir déposer plainte, parce qu'il n'y a pas que ça, on est aussi un service public à part entière,
mais alors,
et
toutes justement...
personnes peuvent venir... solliciter un renseignement. Là, très prochainement, il y aura les épisodes de procuration, de vote, et ainsi de suite.
Je crois que ça, c'est très important de dire que on ne vient pas seulement pour... Alors, justement, dites-nous ce pourquoi on peut s'adresser à la gendarmerie. Donc ça, c'est un point important, déjà, quand on a besoin de changer, quand on ne peut pas voter sur place. Alors, expliquez-nous comment on doit faire. Ça aussi, ça relève de la gendarmerie.
Si vous voulez, les procurations de vote, un mandant, un mandataire, quelqu'un qui est dans l'impossibilité de voter pour des élections, quelles qu'elles soient, peut venir faire une procuration en ayant tous les renseignements, bien évidemment, de la personne qui va être désignée pour voter à sa place. Donc, elle peut faire remplir cet imprimé à la gendarmerie. Comme je le disais, on a un service public. Et donc, on peut recevoir durant les heures ouvrables ouvertes.
Alors, il y a d'autres possibilités aussi.
Il n'y a pas que ça.
Oui, alors dites-nous, donnez-nous un petit peu.
recherchent des personnes qui recherchent leur route, qui demandent un renseignement sur différents volets purement administratifs, oui. conseils. Voilà, c'est.
Oui, mais c'est intéressant de le dire parce qu'on croit que, voilà. que ce n'est que répressif alors que ce n'est pas que répressif.
Pas. Il y a un travail préventif, il y a un travail. Le métier de gendarme est un travail de proximité envers la population.
C'est ça.
De proximité, que ce soit nos gens dans une agglomération telle que nos gens, là où sont implantées les brigades, mais cette notion de proximité, nous l'avons aussi dans les communes environnantes, dans les petits bourgs, où ce travail de contact est pour nous essentiel pour maintenir le maillage territorial.
Et alors, proximité, est-ce que vous êtes présent quelquefois?
Oui, au titre de la, ce qu'on appelle de la on appelait ça avant la surveillance générale, qui s'appelle maintenant la prévention de proximité. Alors, elle est réalisée tant le jour que la nuit. Et puis, cette notion de proximité aussi, si vous voulez, au sein de chaque brigade territoriale, est désigné un gendarme en marge du commandant de brigade, qui reste toujours le référent suprême en tant que commandant d'unité. Mm-hmm. Mais chaque gendarme, si vous voulez, est en charge d'une, voire plusieurs communes, dont il est l'interlocuteur privilégié du maire. Ça peut être la directrice d'école, les quelques référents locaux, c'est des retraités de la gendarmerie, des veuves de la gendarmerie, il doit, si vous voulez, maîtriser un petit peu l'intégralité de la commune dont il a la charge.
Ah oui, donc ça c'est quelque chose.
C'est ce qu'on appelle le référent, si vous voulez, référent. Le référent commun. Chaque gendarme, un voire deux élus
avec qui il travaille.
Le suivi.
Donc sur vos 62 gendarmes, eh bien, tous ont un référent. Enfin.
Pour celles et ceux qui exercent, hommes et femmes confondus, qui exercent dans les brigades territoriales.
C'est ça. Alors, je parlais donc des atteintes aux biens. Des atteintes à la personne aussi. C'est vous qui intervenez. Si, par exemple, quelqu'un est en train de me poignarder, ou de poignarder quelqu'un, on vous appelle tout de suite.
Alors, bien sûr, là, si vous voulez, bien sûr, il s'agit d'interventions extrêmement urgentes. Maintenant, pour tout ce qui concerne les atteintes aux personnes, il s'agit d'une intervention qui doit être très rapide par rapport à l'intensité de l'agression dont peut être...
Et alors, vous pouvez être là dans les combien ?
Le plus rapidement possible.
Le plus rapidement possible, oui. Alors maintenant, j'en viens à quelque chose qui est beaucoup plus courant, heureusement, ce sont les infractions au code de la route. Parce qu'on voit maintenant des gens qui vont à 200 à l'heure et il me semble que souvent, vous êtes sur la route pour voir, pour observer, pour noter.
Alors, si vous voulez, la lutte contre l'insécurité routière reste aussi une de nos principales priorités. Ça reste un enjeu national, faire baisser le plus fortement possible le nombre de personnes décédées sur les routes, y compris sur les routes du Perche. Bon, comme je l'indiquais dans mon propos lors de la Sainte-Geneviève, même si j'ai eu, entre guillemets, des résultats satisfaisants en termes d'accidentalité, malheureusement, on déplore une personne décédée, c'est toujours une personne de trop, malheureusement. Et donc, la lutte contre l'insécurité routière reste aussi un enjeu local. Alors, pour aborder ce fléau, deux volets, préventif et répressif, j'insiste sur la cohérence entre ces deux volets, qui pour moi, il n'y a pas de bonne prévention sans bonne répression, et vice-versa, il n'y a pas de bonne répression sans bonne prévention. Donc je pourrais apporter peut-être quelques exemples, si vous voulez, au travers à la fois le travail préventif et répressif. Donc cette année, avec le concours de la DDT, la Direction départementale des territoires, le service sécurité routière. On met en place, sous l'égide de monsieur le sous-préfet d'arrondissement de Nogent-le-Rotrou, différentes actions de prévention, de sensibilisation, faites auprès, par exemple, d'établissements scolaires tels que le lycée Sully, Rémi Bello, où on va donc sensibiliser un certain nombre de jeunes sur cette problématique inhérente à la sécurité routière, avec la mise en place ou de différents ateliers, de conférences, etc. Et d'expliquer ci et là aussi le rôle de chacun.
Ah oui, vous faites des conférences combien de fois par an ?
Là, si vous voulez, on va le mettre en place cette année, mais on va assurer, on s'attache à vouloir mettre en place 4 ou 5 projets, quoi.
Et dans vos projets, est-ce qu'il y a aussi la lutte contre l'alcoolisme,
absolument,
la lutte ?
Absolument.
Alors, expliquez-nous, parce que ça, je trouve que il faut vraiment le dire, il faut vraiment que les jeunes entendent cela, parce que la drogue, l'alcoolisme, ce sont des fléaux et c'est très grave. Donc, je pense que ça, je ne savais pas que vous alliez dans les établissements scolaires et je suis très heureuse que vous en parliez parce que c'est quelque chose, il faut vraiment que les jeunes se rendent compte de ces fléaux.
Alors, si vous voulez, au titre préventif, il y a ce travail d'information, de sensibilisation auprès des jeunes pour expliquer les méfaits de l'alcool au volant, tout comme les méfaits d'usage de produits stupéfiants au volant, puisque de par ce changement radical de comportement sous le coup du produit, que ce soit l'alcool, des produits stupéfiants, bien évidemment, la personne va être plus à même de conduire et bien sûr de s'exposer à tout moment, avoir un accident de la route, de mettre sa propre vie en danger et surtout celle d'autrui.
Des autres, oui, bien sûr. Et alors, vous allez dans les lycées ou vous allez aussi dans les collèges ?
Alors, là, si vous voulez, ça se fera au niveau du lycée. Hein. Oui. Mais on a aussi...
Parce qu'il y a deux lycées, quand même.
Voilà, il y a deux lycées. Ce travail, si vous voulez, d'information, de sensibilisation au niveau du lycée. Mais je sais également qu'on a donc une brigade qui s'appelle la Brigade de Prévention Délinquance Juvénile, qui est basée à l'UC, auprès du groupement, qui fait tout un travail aussi d'information, de sensibilisation auprès des jeunes collégiens sur différentes thématiques.
Oui, donc ça c'est très bien, prévention, répression.
Alors, pour ce qui concerne la répression, bien évidemment, on explique, il faut qu'il y ait, d'où mon propos par rapport à cette notion de cohérence entre les deux volets, on explique aussi qu'au titre de la répression, bien évidemment, ne fait qu'accompagner, malheureusement, l'enjeu de la prévention, dès lors qu'on est confronté, on est amené à contrôler, à constater une personne ivre en train de conduire ou une personne sous l'influence de produits stupéfiants, où là, comme je l'indique souvent, on combat sans faiblesse les infractions génératrices d'accidents.
Eh bien, écoutez, commandant Laurent Danis, un grand merci parce que je crois que vous nous avez éclairé sur le rôle de la gendarmerie. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pourrez nous retrouver sur notre site internet www.radiograndciel.fr. Merci, commandant Laurent Danis.